19h sur France Inter, le journal Xavier Demagny.
Bonsoir. Bientôt la nouvelle année, mais toujours pas débarrassé. Le Covid vient encore gâcher le réveillon. Bonne année rime avec coton-tige dans le nez. Le 31 annulé ici, ou la fête à tout prix par là. Nous serons avec un groupe d'amis qui prépare sa soirée à Pantin dans un instant. Réveillon bien surveillé, pas de couvre-feu cette année, mais des restrictions à faire respecter. 95 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Et à quelques heures de la nouvelle année, les vœux des candidats à la présidentielle, juste avant ceux d'un chef d'État non déclaré. Emmanuel Macron s'exprime à 20h. 2022, on n'en a jamais été aussi près et on va se projeter dans le téléphone sonne, Frédéric.
Oui, Xavier, présidentiel, crise sanitaire, réveillon sous Covid. Comment se présente l'année 2022? On dit qu'elle rime avec heureux l'année qui se termine, celle qui va débuter, percutée par Omicron qui bouscule tout, nos réveillons, nos vies, la campagne à 100 jours de l'élection. Appelez-nous avant de réveillonner, appelez-nous avant les vœux du président. Le standard est ouvert au 01 45 24 7000.
Et d'ici là, au sommaire aussi dans ce dernier 19h de 2021, des voix optimistes. Omicron serait-il le dernier variant du Covid? Explication dans un instant. Déjà la quatrième dose en Israël pour les plus fragiles et les plus âgés. L'état d'urgence dans le Colorado, aux États-Unis après des incendies inédits en cette saison. Et puis Zaï 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 au théâtre, l'œuvre de Fab Caro adaptée sur les planches.
France Inter.
Ce sera donc le deuxième décompte sous Covid, deuxième réveillon perturbé par la pandémie. Moins que l'an dernier peut-être, on échappe au couvre-feu, mais pas toujours évident d'avoir l'esprit léger vu le contexte sanitaire. Certains ont tout annulé pour ce 31, d'autres ont préféré maintenir leur plan, mais en petit comité et en demandant aux invités de se faire tester. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Vous êtes invité à Pantin, Seine-Saint-Denis, là c'est soirée à la maison, entre copains, parce que faire la fête, on en a quand même un peu besoin Rémi. Hein.
Oui, et tout particulièrement dans cet appartement, on est chez Sarah et Alexandre, un couple de trentenaires, et avec leur petite fille Anna, ils ont bien besoin de faire la fête après un mois de décembre compliqué par le Covid.
On a fait plus d'une vingtaine de jours à l'isolement, puisqu'on l'a tous eu à tour de rôle, et donc on va voilà d'autant plus savourer le fait de pouvoir se retrouver entre amis. En entrée, on va se concentrer sur des petits amuse-bouches, au champagne bien évidemment, et ensuite on passera sur le Mont d'Or, le fromage patates.
C'est pas de la haute gastronomie, mais c'est efficace.
Pratico-pratique, effectivement.
Voilà, la table est dressée, les verres à pied, une jolie nappe, 9 couverts. Et la consigne pour Sarah, c'est de s'amuser, mais aussi de rester prudent.
On a demandé que tout le monde se teste avant de venir. On se dit que ça permettait de réduire les risques pour chacun. On est moins d'une dizaine, donc on se dit que ça aussi, ça permet quand même de limiter un peu la circulation du virus.
Alors, toute l'après-midi, les invités ont envoyé les résultats de leurs tests. Négatifs, il y aura quand même une absente, une amie qui vit aux États-Unis et qui est pourtant bien à Paris.
Elle a pu effectivement prendre l'avion et à la sortie de l'avion quelques jours après, elle s'est testée et elle était effectivement positive au Covid. Donc elle sera à l'isolement ce soir dans sa location. Donc effectivement, on pensera à elle.
Les premiers invités sont attendus dans quelques minutes, mais on prend un peu d'avance, surtout pour le premier réveillon d'Anna qui a 10 mois.
On fait une pré-soirée pour notre petite fille. Avant d'aller la coucher, de pouvoir recevoir les amis.
Voilà le bal masqué, Xavier, cette circonstance pour terminer cette année à nouveau sous le signe de l'épidémie.
Bon, c'est quand même une bonne ambiance, bon repas, bon réveillon. Rémi Brancato à Pantin à 5h de se dire bonne année. Ce soir, en plus du test ou de l'autotest, s'il n'est pas encore fait, on pense bien à aérer la pièce et peut-être à éviter un peu plus que d'habitude les accolades et les embrassades. Ce réveillon de la Saint-Sylvestre mobilise encore une fois les forces de l'ordre pour faire respecter les dernières restrictions, interdictions de se rassembler ce soir sur la voie publique, de consommer de l'alcool aussi, mais aussi fermeture anticipée des bars un peu partout en France. 2 heures, dernier carat à Paris par exemple. Emmanuel Leclerc, au total, 95 000 policiers et gendarmes seront sur le pont.
C'est un dispositif de sécurité publique globalement équivalent à une année normale de réveillon, selon le ministère de l'Intérieur, même si un certain nombre de forces qui auraient pu être mobilisées sont en partie au repos après des semaines sur le terrain aux Antilles notamment. Un certain nombre d'escadrons de gendarmerie mobiles sont également en Nouvelle-Calédonie. Mais ce sont donc 127 000 agents au total qui vont sécuriser ce réveillon, quand on y inclut les 32 000 pompiers et acteurs de la sécurité civile qui seront prêts à intervenir durant toute la nuit, ainsi que les 3 200 600 militaires de la force Sentinelle qui vont patrouiller à pied et en voiture, en particulier sur les Champs-Élysées à Paris. C'est là que seront concentrés l'essentiel des 9000 agents réquisitionnés par la préfecture de police. Risque terroriste à prendre en compte, évidemment, risque surtout de rassemblements inopinés et alcoolisés. C'est cela que les policiers et les gendarmes craignent le plus en cas de dérapage. Et bien sûr, les embuscades dans certains quartiers sensibles, incendies de poubelles ou de véhicules. D'abord, les policiers qui arrivent avec une patrouille de police et tous se font caillasser, bombardés de fusées d'artifice, au risque qu'une voiture du commissariat prenne feu comme à Canteleu hier soir en Seine-Maritime, là où une grosse opération anti-drogue avait eu lieu il y a quelques semaines.
Emmanuel Leclerc, rendez-vous incontournable du 31 décembre au soir, les vœux du chef de l'État, toujours pas candidat. Emmanuel Macron s'exprimera à 20h. A priori, ce sera moins long que les années précédentes. Allocution retransmise sur Inter juste après le téléphone sonne. En attendant, tout au long de la journée, ses potentiels adversaires l'ont devancé et présenté leurs vœux. Bonsoir Elia Bergel.
Bonsoir.
Éric Zemmour, Marine Le Pen et Anne Hidalgo dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. De même, cet après-midi pour Valérie Pécresse et Yannick Jadot.
Oui, Xavier, et la palme des vœux les plus originaux revient à Yannick Jadot cette année. Le candidat Europe Écologie Les Verts est filmé assis à un bureau blanc devant les drapeaux français et européens. Il se met en scène, en fait, comme s'il était en 2027, à la fin donc de son hypothétique mandat de chef de l'État.
Pendant ce quinquennat, nous avons amorcé une transition profonde de notre agriculture qui offre aujourd'hui une vie meilleure à nos paysannes et à nos paysans.
Yannick Jadot dresse le bilan de ce que donnerait une présidence écologiste.
En investissant chaque année le milliard nécessaire pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, nous avons mis fin à l'impunité de ces crimes.
Côté Valérie Pécresse, la forme et le fond sont beaucoup plus traditionnels.
Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger.
La candidate LR est debout en tailleur noir, chemisier blanc. Elle évoque d'abord la vague de l'épidémie qui monte, sans oublier les thèmes chers à la droite.
Mon premier vœu pour 2022, c'est qu'on accorde enfin aux Français un droit essentiel. Le droit au respect et à la fierté.
À la fierté, bien sûr, mais aussi l'identité.
Et nous tiendrons fermement le drapeau tricolore pour rassembler tous ceux qui aiment la France. Nous ferons respecter la laïcité et la loi.
Dans ses vœux, Valérie Pécresse dénonce aussi l'abstention massive lors des dernières élections en France et la fuite vers les partis les plus extrêmes.
Élie Abergel, service politique d'Inter, merci à vous. Et donc les vœux du chef de l'État à 20h, retransmis sur notre antenne. La campagne présidentielle et le Covid. L'équipe de Valérie Pécresse assure aujourd'hui qu'elle appliquera des jauges pour ses meetings et demandera le pass sanitaire. Hors de question pour la France insoumise et le Parti communiste qui préfèrent distribuer des masques FFP2 à celles et ceux qui viendront écouter les candidats Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Masques FFP2 plus filtrants et plus protecteurs que les chirurgicaux. Le masque, on en parlait hier, fait son grand retour en extérieur dans de nombreux centres-villes. Il est aussi désormais obligatoire en montagne, dans les stations de ski de Savoie, Haute-Savoie, Isère et dans les Hautes-Alpes.
19h08 sur France Inter, vous écoutez le journal de Xavier Demagny et eux vont passer le réveillon à l'usine.
Les salariés de la SAM, la société aveyronnaise de métallurgie, sous-traitant de Renault, ils occupent les locaux depuis la liquidation fin novembre. Et sur les 350 salariés, près de la moitié vont passer cette dernière soirée de 2021 ensemble. Un acte de partage et de résistance, explique David Gisto de la CGT. Il a 31 ans de boîte.
C'est un geste fort, c'est un sacrifice, c'est une action de résistance. C'est notre entreprise, elle a une âme parce qu'on l'occupe depuis bientôt 40 jours et parce que ce soir on va se retrouver à près de 130-140 à réveillonner ensemble, en famille. C'est un moment très particulier mais c'est aussi une fierté. On n'est pas dans un moment joyeux mais on n'est pas en même temps dans un moment de résignation. On est dans un moment de partage et de solidarité et l'envie de poursuivre, y compris durant le mois de janvier, notre combat. On va partager des moments forts, des moments d'émotion, bien évidemment, parce que c'est quand même douloureux de vivre ces moments-là. Mais on va le vivre ensemble et l'entreprise, on est en capacité de travailler pour l'aéronautique, pour le médical. Il y a vraiment un réel savoir-faire. Et donc nous, on a confiance en l'avenir et pour une reprise pérenne pour les salariés et pour le territoire.
Réveillon à l'usine pour les salariés de la SAM au sud d'Aurillac. David Gisto interrogé par Cécilia Arbona. La CGT, c'est chez Just Eat, appelle un débrayage des livreurs à vélo ce soir pour réclamer une amélioration des salaires et des conditions de travail. travail. Le syndicat dénonce un turnover important, de très bas salaires et une prise en charge insuffisante du matériel par l'entreprise. Les contours de la rentrée scolaire se dessinent, ce sera lundi dans 3 jours déjà. Pas de changement majeur dans le protocole en classe, mais le ministère de l'Éducation indique ce soir qu'il faudra préférer par exemple les réunions parents-prof et les conseils de classe à distance, en visio, reporter les voyages scolaires et les sorties dans des lieux clos et préférer l'EPS, l'activité physique, en extérieur. On l'évoquait tout à l'heure, la situation sanitaire ne donne pas forcément envie de faire la fête. Plus 1 million de tests hier, sans doute encore autant, voire plus aujourd'hui, et des records de contamination. 232 000 nouveaux cas de coronavirus ces dernières 24 heures, comme ces 2 derniers jours à peu près. Les derniers chiffres sont sur France Inter. Tout cela, c'est en grande partie à cause d'Omicron, désormais majoritaire chez nous, un variant super contagieux, mais qui pourrait, selon certains, annoncer la fin de la pandémie. Sophie Becherel ?
La flambée d'Omicron est vertigineuse, mais pourrions-nous connaître une situation semblable à celle de l'Afrique du Sud où la présidence vient de dire que la vague épidémique était passée sans trop de dégâts humains? Certains optimistes pensent en tout cas qu'en France, après cette 5e vague, l'immunité collective pourrait être atteinte en 2022. C'est le cas de Benjamin Davido, infectiologue et référent Covid à l'hôpital de Garches dans les Hauts-de-Seine.
Je crois que c'est possible d'atteindre cette immunité collective dont certains à la rentrée nous expliquaient qu'elle n'arrivera jamais de par la double immunité vaccinale et naturelle. Pourquoi ? Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que le virus, il est en train de s'atténuer de par la vaccination. Parce qu'en fait, la vaccination joue un rôle de bouclier en évitant les formes graves arithmétiquement. Et donc, le virus va s'atténuer dans une population largement vaccinée.
Largement vaccinée, pour l'instant, on n'y est pas. 80% de la population française a reçu une dose, mais seulement 35%, 3 doses, le schéma complet qui protège le mieux, comme l'ont montré les études. Par ailleurs, avoir acquis une immunité naturelle après avoir fait un Covid n'empêche pas le variant Omicron de réinfecter les personnes. Voilà qui rend très prudent Bruno Coignard, directeur du département maladies infectieuses à Santé publique France.
On avait anticipé éventuellement dans des exercices de prospective le fait qu'on ait des variants plus transmissibles que Delta, même si la plupart des experts considéraient cette probabilité comme faible, et vous voyez qu'Omicron est arrivé. Donc je pense qu'il faut rester prudent. Les virus évoluent constamment. Est-ce qu'on aura un nouveau variant préoccupant qui s'imposera derrière Omicron? Il est difficile de le prédire aujourd'hui.
C'est d'autant plus difficile qu'aucune pandémie de ce type ne s'est jamais produite auparavant dans le monde.
L'ARS d'Île-de-France demande aux hôpitaux et établissements de santé de la région le maximum de déprogrammation en chirurgie comme pour les interventions médicales simples en raison de l'afflux de malades Covid et en pleine période de fête. Le palier 2, soit 50% de lits en soins critiques occupés par des malades du coronavirus, est sur le point d'être atteint d'après l'Agence régionale de santé. En Israël, toujours un coup d'avance sur la vaccination pour Israël. L'État hébreu vient d'entamer une campagne pour l'administration d'une 4e dose. Elle concerne les personnes à risque et les pensionnaires des maisons de retraite. Mais les autorités attendent de nouvelles études pour étendre ce rappel de rappel, en quelque sorte, à toute la population. France Inter à Jérusalem avec Alice Roussard.
Il y a eu des essais cliniques, d'abord sur les équipes médicales d'un hôpital dans une banlieue de Tel Aviv. Elles ont reçu une 4e injection du vaccin contre le coronavirus et les analyses se sont montrées concluantes, explique le docteur Galia Rahav de l'hôpital Shiba de Ramat Gan.
On a constaté pour le moment juste une douleur locale ou une petite démangeaison, mais rien de plus. Le vaccin est vraiment sûr. Pas d'effets secondaires graves ni de problèmes cardiaques.
Résultat, à partir de ce matin, le gouvernement israélien a décidé d'autoriser ce 2e rappel, mais au compte-gouttes, c'est-à-dire seulement pour les personnes à risque et les pensionnaires des maisons de retraite. Une décision prise suite à une augmentation des cas de coronavirus et à la propagation du variant Omicron qui met en danger ces personnes. Plus la vague est forte, plus nous avons besoin de protection pour l'affronter, a déclaré le ministre israélien de la Santé. Les soignants, eux, sont optimistes, pensent aux bons résultats de la 3e dose et se disent impatients de voir les résultats de cette 4e. Jérusalem, Alice Roussard, France Inter.
Israël qui a reçu hier sa première livraison de Paxlovid, la pilule anti-Covid de Pfizer. Traitement qui vient d'être autorisé aussi au Royaume-Uni. L'agence britannique du médicament le juge sûr et efficace pour réduire le risque d'hospitalisation et de décès. Paris condamne ce soir le lancement d'une fusée par l'Iran hier, en pleine négociation sur le programme nucléaire de la République islamique. D'autant plus regrettable, dit le Quai d'Orsay, que ces négociations progressent. En bref, encore, les hommages à Desmond Tutu se poursuivent. Les Sud-Africains pouvaient se recueillir sur sa dépouille jusqu'à aujourd'hui, cathédrale du Cap. Les obsèques de l'archevêque combattant de l'apartheid auront lieu demain.
Et le feu va faire place à la neige dans le Colorado.
Et apporter peut-être un peu de répit. Forte chute prévue dans cet état du centre-ouest américain après des incendies inédits pour un mois de décembre. Le gouverneur a même décrété l'état d'urgence. Aux États-Unis, Sébastien Paour.
Sur les images prises au téléphone portable, il fait nuit en plein jour. La fumée est partout. Des murs de flammes orange et rouge entourent les maisons, des hôtels, des centres commerciaux. Ici, un restaurant salle de jeu pour enfants à Superior, entre Denver et Boulder. Les familles regardent le feu qui s'approche au-delà du parking et décident de sortir. Quand la porte s'ouvre, on entend les rafales de vent, parfois à plus de 160 km/h. L'incendie se propage vite sur des sols particulièrement secs. L'ordre d'évacuation a été donné dès hier soir par les patrouilles de police. Cet homme qui sortait d'un supermarché raconte la peur dans les yeux du policier qui l'a guidé. Il a fallu faire très vite, reconnaît le gouverneur Jared Polis en conférence de presse. Très peu de temps pour sortir. Très peu de temps. Pour même attraper les choses les plus importantes de votre vie. Oui, ce sera un processus difficile pour les familles du Colorado de reconstruire leur vie. D'après les pompiers, des lignes électriques tombées au sol seraient à l'origine de l'incendie. Pour venir à bout des flammes, ils misent désormais sur la neige, attendue dans les prochaines heures sur les Rocheuses. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
En France, le procès du 13 novembre ne reprendra pas avant deux semaines. Report de l'audience au 13 janvier en raison de la contamination au Covid-19 de Salah Abdeslam. La vente de fleurs et feuilles brutes de CBD, désormais interdite en France, arrêtée parue aujourd'hui au journal officiel. Le gouvernement serre la vis contre ce cannabis light très à la mode. Un cocorico et un bravo, le grand maître français Maxime Vaquier-Lagrave a remporté le championnat du monde d'échecs en blitz. Pour les non-connaisseurs, ce sont des parties en cadence ultra rapide, c'était hier à Varsovie, en Pologne. Et là, vu le succès de la BD originale, pas trop de risque d'échec pour ses adaptations au théâtre de Zaï 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 Zaï, l'œuvre de Fab Caro, actuellement mise en scène par plusieurs compagnies. Stéphane Capron, vous avez vu l'une de ses versions signée du théâtre de l'Argument, qui a transformé la bande dessinée en fiction radiophonique.
Le monsieur n'a pas sa carte du magasin.
8 comédiens à la table, face à des micros, racontent l'histoire de cet homme ordinaire, devenu l'ennemi public numéro 1, recherché par toutes les polices. La mise en scène de Paul Moulin permet de conserver le rythme de la bande dessinée.
C'est un travail sur le son, sur la musique qu'on mène depuis longtemps. Il faut que ça aille très vite, il faut que le spectacle dure autant de temps que j'en ai mis pour lire la BD. Et puis, il est question d'une espèce de chasse à l'homme, donc il y a un côté quand même assez haletant, donc il fallait que ça aille vite et le travail sur le son nous permet ça.
Le texte du spectacle s'enrichit chaque soir. Maya Sandoz et les comédiens n'ont qu'à puiser dans l'actualité pour le faire évoluer.
Il y a aussi des petites surprises supplémentaires. On est aussi beaucoup sur l'instant présent. On fait surgir aussi des choses qui sont arrivées dans la journée. Voilà, donc il y a l'espace quand même de réinventer tous les soirs que ça reste très très vivant et ça c'est chouette aussi.
La BD de Fab Caro est parue en 2015. Depuis, la Covid-19 est passée par là. Il y a donc matière pour cette adaptation théâtrale à pousser le bouchon encore plus loin dans ce voyage en absurdie.
Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï.
L'œuvre de Fab Caro, adaptée au théâtre. L'une de ses adaptations qui se joue à l'Atelier à Paris. Allez, pour finir, si vous ne savez pas sur quoi danser toute la nuit, on ne peut que vous conseiller d'écouter France Inter. Soirée spéciale, après les vœux du chef de l'État tout à l'heure, un numéro inédit de Qui veut gagner la flûte à bec avec Thomas VDB. Une battle musicale entre Aline Afanouko et Mishka Assayas. Et à partir de minuit, c'est ce qu'on entend, 6 heures de mix avec notamment Métronomie. Tout ça pour aller saluer nos amis du 6-9 du 1er janvier, les courageux. Et puis un tout dernier mot pour saluer la formidable équipe derrière les journaux de 13h, 18h et 19h cette semaine. Ils méritent bien d'être cités. Vanessa Descoureau, Anne Patinec à la rédaction en chef, assistée de Swat Bellani, Nicolas Sabat et Brice Garcia. Et aux manettes, à la technique, salut à Henri Bérec, Benjamin Tronxin, Jenab Sangari, Clément Berman et Vincent Désert. Voilà, la liste est complète, Frédéric.
Et zaï 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 à vous, Xavier.
Merci. Bon téléphone sonne, bon dernier téléphone sonne de l'année.
Et bon réveillon à vous.